Vous écoutez, on lit pour vous.
Face à la crise, Saint-Jean-sur-Richelieu s'organise pour lutter contre l'itinérance. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 janvier 2026 dans Le Devoir. Depuis quelques années, l'itinérance n'est plus uniquement un problème métropolitain, mais aussi régional. À Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, la montée rapide du phénomène oblige les institutions locales à mettre les bouchées doubles pour remédier aux problèmes les plus urgents. Un toit au-dessus de la tête, un lit et un peu de chaleur humaine. C'est ce que promet le nouveau refuge pour personnes itinérantes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mis sur pied en seulement un mois, le refuge temporaire a été installé dans un ancien gymnase le long d'un grand boulevard, un peu à l'écart du centre-ville de la cité, de 100 000 habitants. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'endroit ne paie pas de mine. Mais il est pleinement fonctionnel au goût de Linda Villeneuve, directrice d'Action Dépendance, l'organisme local qui a pris en charge cette mission in extremis. Ici, on n'a pas grand-chose, mais on a l'essentiel, souligne l'intervenante en toxicomanie. L'essentiel, ce sont les 24 lits, chacun entouré d'un paravent pour offrir un peu d'intimité à ceux et celles qui cherchent le repos. À proximité, une salle commune permet aux visiteurs de socialiser un peu avant d'aller au lit. Le refuge, qui compte une dizaine d'employés en rotation, accueille ses hôtes chaque soir de 20h jusqu'à 8h le lendemain matin. Les sans-logis qui s'y arrêtent peuvent aussi y prendre une douche, laver leurs vêtements et mettre leurs biens en sécurité. Linda Villeneuve souhaite à terme y installer une télévision et une cuisine pour pouvoir offrir des déjeuners chauds. Aussi spartiate soit-il, ce nouvel espace vient offrir un répit bienvenu aux sans-logis de la 11e ville en importance au Québec, particulièrement en période de grand froid. Bien dormir, ça fait une grosse différence, raconte Yannick, une personne en situation d'itinérance rencontrée après sa nuit au refuge. Quand on ne dort pas bien, on est plus fatigué, moins patient avec le monde. L'homme dans la quarantaine, qui vit dans la rue depuis 6 ans, venait de passer une première nuit tranquille et au chaud depuis longtemps. L'hiver, ce n'est pas toujours facile, explique de sa voix grave celui qui est habitué à dormir à l'extérieur par tous les temps. L'an dernier, des engelures aux pieds l'avaient forcé à marcher jusqu'à l'hôpital en pleine nuit. C'est une belle place, avec de bons intervenants. On est bien traité, dit-il à propos du refuge. Il n'y avait pas autant de choses pour nous avant à Saint-Jean. Des besoins criants. Avant l'inauguration du refuge, le 30 décembre 2025, les options étaient encore plus limitées pour passer une nuit au chaud. 6 lits d'urgence dans les locaux d'Action Dépendance et 36 chaises dans une halte chaleur. Tout cela pour une population vulnérable estimée à 200 personnes, dont 50 à 100 sont condamnées à dormir dehors chaque nuit. C'était un besoin qui était criant depuis des années, estime Jérémy Fleury, chargé de projet au sein de l'organisme Passe-moi la POC, qui gère le centre de jour, le SPOT. À Saint-Jean, comme partout ailleurs au Québec, la pandémie de COVID-19 est venue aggraver la problématique de l'itinérance, qui était déjà bien présente, mais moins visible. Problème de santé mentale accrue ou de toxicomanie et crise du logement forment un cocktail délétère pour ceux qui sont à risque de se retrouver à la rue, selon M. Fleury. La hausse des loyers n'a aucun sens. Seulement pour avoir une chambre, c'est leur chèque d'aide sociale qui y passe, déplore-t-il. Saint-Jean-sur-Richelieu a l'un des taux d'inoccupation des logements les plus bas au Québec. En octobre 2025, il était de 1,3 %, une amélioration par rapport au taux infinitésimal 0,4 % de 2023. La liste d'attente pour un logement social frôle les 500 noms, rapportait en septembre 2025 le journal local. Il y a un problème de logement. Chaque 1er juillet, il y a des nouveaux itinérants qui se créent. C'est automatique, reconnaît le maire Éric Latour, élu en novembre 2025. Le magistrat est bien placé pour constater le phénomène. De la fenêtre de son bureau, il peut observer les sans-abri qui se rassemblent sur la place du marché, à quelques pas de l'hôtel de ville. L'ancien gestionnaire du Monde des médias a fait de l'ouverture du refuge une promesse électorale. Dans les jours suivant son élection, le conseil municipal a voté l'octroi d'une somme de 395 000 $ pour payer le loyer pendant un an. Le CI3S de la Montérégie Centre a aussi contribué à hauteur de 250 000 $. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un choix politique. Comme société, on ne peut pas tolérer le fait que des gens dorment dans la rue, fait valoir M. Latour. Un rôle accru pour les villes. Le refuge était l'un des derniers maillons qui manquait pour subvenir aux besoins urgents de la population itinérante. Outre le centre de jour et ses travailleurs de rue, Saint-Jean est également doté d'une escouade mixte réunissant policiers et travailleurs sociaux au CI3S. La ville met environ 1,4 million de dollars par année dans la lutte contre l'itinérance. Sur un budget opérationnel de 243 millions, c'est beaucoup pour 200 personnes. Mais c'est ça où ces personnes dorment dans la rue, constate Éric Latour. Les villes moyennes comme Saint-Jean sont de plus en plus proactives pour lutter contre l'itinérance, estime Caroline Grimard, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Tant que l'itinérance était invisible, ce ne sont pas toutes les municipalités qui se sentaient nécessairement concernées. Maintenant qu'on prend vraiment connaissance de l'ampleur de la situation, elles se rendent compte qu'elles ont une responsabilité à jouer dans l'équation. Ces villes n'ont cependant pas toujours la marge de manœuvre pour agir, souligne la spécialiste de l'itinérance. Au Québec, si vous voulez construire quelque chose pour contrer l'itinérance, c'est la Société d'habitation du Québec qui paye pour le béton et le ministère de la Santé qui paye pour les intervenants. Les municipalités, elles, gèrent la réglementation et la réaffectation des bâtiments. On parle de trois acteurs politiques qui ont différents mandats, différentes capacités d'agir et différentes enveloppes budgétaires, et qui ne sont pas toujours assis autour de la même table. Une recette complexe que plusieurs, à Saint-Jean-sur-Richelieu, aimeraient mettre en œuvre pour succéder au refuge temporaire dont le bail n'est que d'une durée d'un an. Action Dépendance, de concert avec un développeur privé, et l'Office municipal d'habitation, planche sur un projet permanent. Mais il en est encore qu'à ses balbutiements. Linda Villeneuve rêve d'un complexe comprenant une trentaine de logements transitoires et un refuge d'urgence d'une cinquantaine de places. Une capacité accrue parce que l'itinérance ne va aller qu'en augmentant avec le prix des loyers, craint-elle. C'était « Face à la crise, Saint-Jean-sur-Richelieu s'organise pour lutter contre l'itinérance ». Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 janvier 2026 dans Le Devoir.
Pax transactionnalis ou quand la géopolitique devient une télé-réalité. En sous-titre, dans un monde saturé de signaux contradictoires comme le nôtre, qui décide de ce qui est réel? Le texte est signé par Gilles Zedima, en deux mots, Z-E-H, et Dima, D-I-M-A. Le signataire est auteur indépendant. Texte publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026. Imaginez un jeu d'échecs où l'un des joueurs passait son temps à crier, à renverser l'échiquier et à changer les règles à chaque tour, tout en produisant en direct un commentaire épique sur sa propre grandeur. Le véritable enjeu n'est plus de gagner la partie selon les anciennes conventions, mais de saturer l'esprit de l'adversaire au point de la rendre incapable de penser deux coups à l'avance. Bienvenue dans l'ère de la Pax Transactionalis, une forme émergente d'ordre international dans laquelle la puissance dominante ne cherche plus à stabiliser le système par des règles, mais à le dominer par la saturation cognitive, l'imprévisibilité et la dissonance manufacturée. Le champ de bataille a changé. Il n'est plus seulement territorial ou économique. Il est désormais mental, logé dans l'écran de nos téléphones intelligents et dans le flux continu de l'information où se redéfinit ce qui est réel, normal et possible. Du soft power au pouvoir brut de la perception. Pendant des décennies, la puissance américaine s'est pensée et s'est exercée à travers un concept séduisant, le « soft power » ou « pouvoir de l'influence ». Il s'agissait d'attirer, de persuader, de structurer l'ordre international par l'exemple de valeurs, d'institutions et de récits présentés comme universels. Cette grammaire de la puissance est aujourd'hui en crise. Une mutation profonde est à l'œuvre. L'influence ne cherche plus prioritairement à convaincre, mais à désorienter. Elle ne vise plus l'adhésion à un ordre libéral, mais l'imposition d'un nouveau logiciel international fondé sur la logique du deal transactionnel, de la mise en scène permanente et de l'instabilité calculée. Il ne s'agit pas ici de réduire cette évolution à la psychologie ou au style d'une administration particulière. Cette logique, certes radicalisée à certains moments récents, révèle une transformation plus large et plus structurelle de l'exercice de la puissance à l'ère des plateformes, de l'économie de l'attention et de la communication en temps réel. Deux mécanismes médiatiques centraux président à ce réalignement cognitif forcé. L'armement de la dissonance cognitive qui détruit le sens, et la saturation par le spectacle qui détruit le temps stratégique. L'armement de la dissonance cognitive, détruire le sens partagé. La première stratégie est la plus insidieuse. Elle consiste à rendre la réalité géopolitique volontairement illisible selon les cadres d'interprétation hérités du multilatéralisme et du droit international. L'objectif n'est pas tant de produire une nouvelle cohérence que de saper la possibilité même d'une lecture stable du réel, ce qui paralyse la capacité d'anticipation des adversaires comme des alliés. Cette tactique repose sur la production systématique et publique de contradictions flagrantes, des déclarations d'escalade extrême suivies de retraits unilatéraux soudains, des sanctions maximales imposées à un partenaire puis levées après une négociation spectaculaire, des engagements solennels en faveur des alliances aussitôt relativisées par des menaces tarifaires ou sécuritaires. Pris isolément, chacun de ces gestes peut faire l'objet d'une analyse rationnelle. C'est leur enchaînement erratique, délibérément contradictoire, qui produit un effet de brouillage cognitif durable. Comme l'a récemment souligné Le Devoir dans une analyse de Fabien Deglise, cette pratique instille, citation, un état permanent d'incertitude, d'incompréhension et d'inquiétude. Fin de citation. Les diplomaties, les marchés et les rédactions sont happés par une quête sans fin de sens. Que faut-il prendre au sérieux? Qu'est-ce qui relève de la posture, de la menace réelle ou de la simple diversion? Le but n'est pas tant de gagner un débat sur les faits, mais de rendre les faits eux-mêmes instables et toute contre-argumentation cohérente impossible. On ne conteste plus un cadrage, on dissout la crédibilité du cadre lui-même. Le spectacle et la saturation cognitive détruisent le temps stratégique. Si la dissonance cognitive s'attaque à la cohérence du réel, la saturation par le spectacle vise une autre ressource essentielle, le temps long de la décision stratégique. Elle opère par un feu roulant médiatique continu, conçu pour fragmenter l'attention et épuiser la capacité de projection des acteurs internationaux. Le calendrier géopolitique récent offre une succession presque ininterrompue d'annonces tonitruantes, de crises déclarées et de retournements spectaculaires, chacune chassant la précédente de l'espace médiatique avant même que ses conséquences n'aient pu être évaluées. Ce chaos apparent n'est pas un accident de communication. Il fonctionne comme une véritable chaîne de production du spectaculaire où chaque crise devient un épisode d'une télé-réalité géopolitique mondiale destinée à occuper en permanence l'agenda politique et informationnel. Cette dynamique illustre concrètement l'obsolescence des unités collectives de décision. Prenons le cas de l'Union européenne. Comment élaborer une vision stratégique cohérente à l'horizon 2030 sur la défense, l'autonomie technologique ou la relation avec la Chine, lorsque l'essentiel du capital politique est absorbé par la gestion réactive du dernier choc transactionnel venu de l'extérieur? La saturation cognitive enferme les acteurs dans une logique de court terme, neutralisant toute capacité de planification et réduisant les ensembles politiques complexes à une juxtaposition d'intérêts nationaux divergents. C'est l'équivalent géopolitique du défilement morbide, doom scrolling, une succession anxiogène d'événements qui empêche toute réflexion profonde et toute action préventive. Conséquences et résistances, l'urgence d'une souveraineté cognitive. Le résultat combiné de ces deux offensives est un environnement international où la prévisibilité, fondement de la diplomatie, des alliances et des investissements, se trouve profondément érodée. Ce climat favorise structurellement les régimes autoritaires, capables de contrôler plus étroitement leurs espaces informationnels et fragilise les démocraties libérales dont le fonctionnement repose sur le débat public, la délibération et l'existence de repères factuels partagés. Face à ce pouvoir brut de la perception, Les réponses classiques, plus de dialogue, plus de sommets, plus de déclarations communes, apparaissent insuffisantes. Il devient nécessaire de penser une nouvelle forme de résilience, la souveraineté cognitive. Celle-ci ne se réduit ni à l'autonomie militaire, ni à la souveraineté technologique. Elle désigne la capacité collective d'un espace politique à protéger son environnement mental, à produire et à maintenir une narration stratégique autonome et à investir dans les infrastructures de la pensée, médias indépendants, recherche, éducation critique, capables de résister à la désorientation imposée de l'extérieur. Les débats européens sur l'autonomie stratégique prennent ici une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de capacités matérielles, mais de la préservation d'un espace de décision fondé sur le temps long, la cohérence et la délibération collective. La bataille des réalités. Le grand affrontement du 21e siècle ne se jouera pas uniquement avec des armements conventionnels ou des chaînes d'approvisionnement technologique. Il se jouera dans la capacité des sociétés à définir ce qui fait la réalité, normalité et horizon commun. La Pax transactionnaliste ne peut s'imposer durablement que si ses cibles acceptent son rythme, son cadrage et sa logique de réaction permanente. La première forme de résistance est donc cognitive. Elle consiste à refuser l'enfermement dans l'urgence spectaculaire, à restaurer les conditions de la pensée stratégique et à réhabiliter le langage de la complexité et du long terme. L'enjeu ultime est épistémologique autant que politique. Dans un monde saturé de signaux contradictoires, qui décide de ce qui est réel? De la réponse à cette question dépendra la nature de l'ordre international à venir. Un monde de transactions brutales et de réalités fragmentées, ou un monde où le conflit, inévitable, demeure néanmoins encadré par des règles du temps et du sens. Fin de ce texte titré « Pax transactionnaliste ou quand la géopolitique devient une télé-réalité », signé Gilles Z. Lima et publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026.
Êtes-vous un patron hélicoptère? Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 2 décembre 2025 dans la presse. Nous pouvons intuitivement comprendre les dérives de ce qu'on nomme le parent hélicoptère. Il plane au-dessus de son enfant et s'implique dans chaque aspect de sa vie, allant jusqu'à étouffer sa liberté et nuire au développement de son autonomie. Pourrait-on faire le parallèle avec le micro-manager, qui serait en fait le patron hélicoptère? Qu'est-ce qui est le plus stressant, être gestionnaire ou employé? Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences avait fait la démonstration, surprenante pour certains, que les employés étaient plus stressés que leurs patrons. En effet, si les gestionnaires exerçaient des responsabilités plus importantes, ils avaient aussi plus de contrôle. Et ce sentiment de contrôle est relié à une diminution du cortisol, hormone du stress. C'est comme conduire dans une tempête de neige. Bien que ce soit assurément stressant, ce l'est souvent beaucoup moins que d'être passager dans la voiture. Il en va de même en entreprise. Alors que les salariés affrontent différents défis et les tempêtes du monde du travail actuel, être réduit à être sur le siège arrière, alors que vous avez pourtant le sentiment de mieux connaître les particularités de la route devant vous, est sans contredit très drainant et mène à une perte de sens. Le manifestement déraisonnable. Historiquement, la Cour suprême du Canada intervenait uniquement quand elle considérait qu'une décision d'un tribunal inférieur était manifestement déraisonnable. Cela permettait d'éviter qu'elle s'implique à tout bout de champ dans tous les dossiers. J'imagine très bien ce concept s'appliquer aux gestionnaires. Pourquoi ne pas intervenir uniquement lorsque la situation l'exige réellement et qu'il y a un enjeu important plutôt que de se mêler de tout? Un PDG m'a d'ailleurs raconté utiliser la règle du pouce des 20%. S'il croit qu'il ne peut pas améliorer le travail d'une personne de plus de 20%, il s'abstient de commentaires, étant bien conscient que cela pouvait parfois être contre-productif. Le célèbre YouTuber MrBeast a d'ailleurs dit la même chose. Il évite de donner des directives trop claires à ses équipes, car elles reproduiront à la lettre ce qu'il demande, risquant ainsi de réduire l'innovation qui a caractérisé son succès. Une définition toute récente. Si la micro-gestion aide toutes les conversations dans les cafétérias d'entreprise, il est surprenant de constater que les chercheurs s'y sont peu intéressés jusqu'à tout récemment. Une recherche publiée en 2025 dans le Journal of Management vient répondre à cette lacune en définissant le concept et ses conséquences. Celui-ci est défini comme un style de gestion caractérisé par un usage excessif du contrôle, une surveillance étroite et un souci exacerbé du détail. Un style de gestion axé sur la micro-gestion est corrélé positivement à l'intention de quitter l'entreprise et négativement à la performance en emploi. Si vous travaillez sous le régime d'un micro-manager et que vous avez déjà tenté de vous faire entendre sans succès, sachez qu'il est peut-être temps de penser à changer de travail. Le faible sentiment de contrôle au travail est lié à plusieurs problèmes de santé et prédit même la mortalité prématurée. Si vous êtes gestionnaire, vous ne vous sentez peut-être pas concerné par ce travers. La micro-gestion, c'est les autres. Mais est-ce que vos équipes diraient que vous interférez dans leur travail même lorsque ce n'est pas nécessaire? Que vous surveillez leur travail de près? Ou que vous vous enfargez dans les fleurs du tapis quand vient le temps de débattre de la taille d'une virgule? Peut-être vous dites-vous que vous n'êtes pas un micro-manager, mais seulement quelqu'un qui aime l'excellence, la rigueur et le travail bien fait. Mais en êtes-vous certain? Si vous avez découvert cet article déposé sous le pas de la porte de votre bureau ce matin, peut-être est-ce un employé qui a voulu vous suggérer un petit moment d'introspection. C'était « Êtes-vous un patron hélicoptère ?» un texte de Jean-François Berthollet, paru le 2 décembre 2025 dans la presse.